Chapitre 15. C'est abominable. Il faut répondre. L'Académie ne peut pas rester sous le coup. Mais changez-vous, l'Académie se doit au contraire. Messieurs, messieurs, le vrai sentiment de l'Académie de... Dans leur salle des réunions privées, devant la grande cheminée que surmonte le portrait en pied du cardinal de Richelieu, les immortels discutaient avant d'entrer en séance. Un jour fumeux et froid d'hiver parisien, tombant par la large baie du plafond, accentuait la solennité glaciale de tous ces bustes de marbre à l'alignement contre les murs. Et le vaste foyer de la cheminée, presque aussi rouge que la simarre du cardinal, ne parvenait pas à réchauffer cette sorte de petit parlement demi-tribunal avec ses sièges de cuir vert, sa longue table en hémicycle devant le bureau, et l'huissier à chaîne gardant la porte non loin du secrétaire Pichral. C'est d'ordinaire le meilleur de la séance, ce quart d'heure de grâce laissé au retardataire, et que l'on passe à potiner tout bas par petits groupes familiers, le dos au feu, masque relevé. Mais aujourd'hui, la causerie se généralisait, montée au ton d'une discussion publique des plus violentes, pour laquelle les arrivants prenaient leur voix dès le bout de la salle, tout en signant la feuille de présence. Quelques-uns même, avant d'entrer, quittant leur fourrure, leur cache-nez, leur soc dans la salle déserte de l'Académie des sciences, entr'ouvraient la porte pour crier à l'infamie, à l'abomination. La cause de tout ce tumulte, la reproduction, dans un journal du matin, d'un très impertinent rapport de l'Académie de Florence sur le Galilée d'Astiéréu et les pièces historiques manifestement apocryphes et bouffonnes, sic, qui l'accompagnaient. Ce rapport, communiqué en grand mystère au directeur de l'Académie française, agitait sourdement l'Institut depuis quelques jours, dans l'attente fiévreuse de la détermination d'Astiéréu, qui se contentait de répondre « je sais, je fais le nécessaire ». Et brusquement, voilà ce compte rendu qu'ils se croyaient seuls à connaître, pétaradant ce matin à la première page du journal le plus répandu de Paris, avec d'outrageants commentaires pour le secrétaire perpétuel et toute la compagnie. Là-dessus, émoi, fureur, horripilation contre l'impudent journaliste et la sottise d'Astiéréu qui leur valait ces attaques depuis longtemps désapprises, depuis que l'Académie ouvra sa porte prudemment aux gens de feuille. Le bouillard larabioire, rompu à tous les sports, parlait d'aller couper les oreilles au monsieur, et c'était pas trop de deux ou trois collègues pour le retenir. Voyons larabioire, l'épée au côté, jamais à la main, le mot est de vous, que diable, bien que l'Académie l'ait adopté. Vous savez, messieurs, que Pline l'Ancien, au livre 13 de son Histoire naturelle, c'était Gazan qui arrivait tout soufflant de son trop lourd de pachyderme, signale déjà des supercheries autographiques, entre autres une fausse lettre de Priam sur papyrus. Mais monsieur Gazan n'a pas signé la feuille, criait l'aigre Fausset de Pêcheral. Oh, pardon! Et le gros homme allait signer, tout en continuant son histoire de papyrus, de roi Priam, noyé dans cette confusion de voix irritées où l'on ne distinguait que le mot « Académie, Académie », tous en parlant comme d'une personne réelle, vivante, dont chacun avait la conviction de connaître et d'exprimer l'intime pensée, à l'exclusion de tous les autres. Subitement, ces cris à rire s'arrêtèrent devant Astiéréu, entrant, signant, posant très calme à sa place de secrétaire perpétuel la lourde serviette qu'il tenait sous le bras, puis s'avançant vers ses collègues. « Messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. J'avais fait porter à la bibliothèque, pour l'expertise, les 12 à 15 000 autographes qui composent ce que j'appelais ma collection. Eh bien, messieurs, tout est faux, tout. L'Académie de Florence avait dit vrai. Je suis victime d'une immense mystification. Pendant qu'il essuyait son front mouillé de grosses gouttes, après l'effort de cet aveu, quelqu'un demanda avec insolence « Et alors, monsieur le secrétaire perpétuel ?»« Alors, monsieur d'Anjou, il ne me restait plus qu'à porter plainte, c'est ce que j'ai fait. » Et comme ils protestaient tous, déclarant qu'un procès pareil était impossible, qu'ils ridiculiseraient la compagnie. « Désespéré, vraiment, mes chers collègues, mais ma décision est irrévocable. D'ailleurs, l'homme est en prison, et l'instruction commencée. » Des rugissements pareils à ceux qui accueillirent cette déclaration, jamais la salle des séances privées n'en avait entendu. Et comme toujours, entre les plus furieux, se signalait la Rivoire, vociférant que l'Académie devrait se débarrasser d'un membre aussi dangereux. Dans un premier coup de colère, quelques-uns examinaient tout haut la proposition. Était-ce faisable? L'Académie, compromise par un des siens, pouvait-elle lui dire « Allez-vous-en, je me déjuge, immortel, je vous rejette au commun des mortels ?» Tout à coup, soit qu'il eût saisi quelques mots du débat ou par une de ces curieuses divinations dont s'élucident parfois les surdités les plus hermétiques, le vieux Réhu, qui se tenait à l'écart et loin du feu, crainte d'une attaque, proféra de sa forte voix, sans diapason, « Sous la Restauration, pour des motifs de simple politique, nous éliminâmes jusqu'à 11 membres. » L'ancêtre eut son mouvement de tête certificatif qui prenait à témoin ses contemporains de ces temps-là, buste blanc, aux yeux vides, alignés sur des piédestaux autour de la salle. « Onze bigre !» murmura d'Anjou dans un grand silence. Et la Rivoire, toujours cynique, « Tous les corps constitués sont lâches, c'est la loi de nature, faut vivre. » Alors Épinchard, qui s'affairait à l'entrée avec le secrétaire Pichorat, rejoignit ses collègues et, tout bas entre deux quintes, déclara que le secrétaire perpétuel n'était pas seul coupable en cette affaire, à preuve le procès-verbal du 8 juillet 1879, dont on allait donner lecture. De sa place, la petite voix de Pichard commença, guillerette et très vite. Le 8 juillet 1879, Léonard-Pierre Alexandre Astier-Réhu fait don à l'Académie française d'une lettre de retrait au cardinal de Richelieu sur les statuts de la compagnie. L'Académie, ayant pris connaissance de cette pièce inédite et très curieuse, félicite le donateur et décide que la lettre de retrait sera insérée au procès-verbal. La voici textuellement. Ici, le débit du secrétaire se ralentit, appuyant malicieusement sur tous les mots. Textuellement, c'est-à-dire avec les négligences qui se rencontrent dans les correspondances familières et confirment l'authenticité du document. Sous le jour décoloré qui tombait du vitrage, tous debout et immobiles, évitant de se regarder entre eux, ils écoutaient dans la stupeur. « Mais lirai-je la lettre aussi ?» Pichard souriait, s'amusait beaucoup. « La lettre aussi, » dit Épinchard. Mais, dès les premières phrases, on cria « Oh, c'est assez, ça suffit !» Ils en rougissaient maintenant de cette épître de Rotrou, dont l'imposture crevait les yeux. Un pastiche d'écolier, tournures impropres, la moitié des mots ignorés de ce temps-là. Quel aveuglement ! Mais comment avait-il pu ? Vous voyez donc, messieurs, que nous serions malvenus à accabler notre infortuné collègue, reprit Épinchard. Et tourné vers le secrétaire perpétuel, il adjura de renoncer au scandale d'un procès dont la compagnie tout entière et le grand cardinal lui-même seraient atteints. Mais ni la chaleur de l'apostrophe, ni l'ampleur oratoire du geste vers le cardinal, le camail du cardinal fondateur, ne vinrent à bout du farouche entêtement d'Astiréhu, qui, fermé droit devant la petite table servant de tribune au milieu de la salle pour les lectures et communications, les poings serrés, comme s'il avait peur qu'on lui arrachât sa volonté des mains, affirmait que rien, entendez-vous, rien, n'entamerait sa résolution. Et ses gros doigts fermés, sonnant avec colère sur le bois dur, « Ah, messieurs, j'ai déjà trop attendu, trop cédé à des considérations de ce genre. Comprenez donc qu'il m'étouffe, ce Galilée, que je ne suis pas assez riche pour acheter, et que je vois aux victimes vitrines des libraires avec mon nom en complicité de ce faussaire. » Ce qu'il voulait en somme, arracher lui-même les pages véreuses de son œuvre, en faire un public autodafé dont le procès lui fournissait l'occasion. Vous parlez de ridicule, mais l'académie est bien trop haute pour le craindre. Quant à moi, ruiné, bafoué, il me restera le fier contentement d'avoir mis mon nom, mon œuvre et la dignité de l'histoire à l'abri. N'en demande pas davantage. » Sous l'emphase de sa parole, il y avait un accent de sincérité, de droiture, qui détonnait dans ce milieu ouaté de toutes sortes de compromissions, d'enveloppements. Soudain, l'huissier annonça « Messieurs, 4 heures !»« 4 heures !» Et les funérailles de Ripomadin qui n'étaient pas finies de régler. « Au fait, oui, ce pauvre Ripomadin, » dit d'Anjou d'un ton de gouaille. « Oh, il est mort à temps, celui-là !» déclama sombrement la Riboire. Mais l'effet de son mot fut perdu. L'huissier criait « À vos places !» Le directeur agitait sa sonnette, ayant à sa droite le chancelier des minières et à sa gauche le secrétaire perpétuel, lisant avec sa calme assurance reconquise le rapport de la commission des obsèques parmi des chuchotements animés et des tintements du grésil sur le vitrage. « Comme vous avez fini tard aujourd'hui !» ronchonna Corentine, ouvrant la porte à son maître. Encore une que l'Institut n'impressionnait pas. « Monsieur Paul est dans votre cabinet avec madame. Passez par les archives, le salon est plein de monde pour vous. » Sinistres ces archives, où restaient seulement les appuis des cartonniers, comme après un vol ou un incendie. Il évitait d'y entrer d'ordinaire, mais aujourd'hui, il les traversa fièrement, redressé par la résolution prise, par la déclaration qu'il venait de faire en séance. Après ce grand effort de volonté, de courage, l'idée que son fils l'attendait lui était douce, une détente. Il ne l'avait pas revu depuis le duel, depuis l'émotion ressentie devant son grand garçon, couché plus blanc que ses draps. Et ce faisait une joie d'aller à lui, les bras tout grands, de le prendre, le serrer longtemps, bien fort, sans rien dire. Mais sitôt entré, en voyant la mère et le fils rapprochés, chuchotant les yeux à terre, toujours avec leur air mystérieux et complice, son effusion tomba. « Mais arrivez donc, mon Dieu !» dit madame Astier, coiffée pour sortir. Puis, à demi-sérieuse, sur un ton de présentation, « Cher ami, monsieur le comte Paul Astier !»« Maître !» fit Paul s'inclinant. Astier et Hul les regardaient tous deux, fronçant ses gros sourcils. « Le comte Paul Astier !» Le garçon, toujours joli sous le hâle de ses 6 mois de plein vent, raconta qu'il venait de s'offrir un titre de contre-main, moins pour lui que pour honorer celle qui allait prendre son nom. « Tu te maries ?» demanda le père de plus en plus méfiant. « Et avec la duchesse Padovani ?»« Tu es fou, mais elle a 25 ans de plus que toi, la duchesse. Et puis... » Il hésitait, cherchait une formule respectueuse, et enfin, brutalement, « On n'épouse pas une femme qui, au vu et au su de tous, vient d'appartenir pendant des années à un autre homme. Ce qui ne nous a jamais gênés, du reste, pour dîner régulièrement chez elle et lui avoir une foule d'obligations, siffla Malamastier, sa petite tête dressée pour l'attaque. Sans lui répondre, ni même la regarder, comme la jugeant pas compétente en ces choses de l'honneur, le bonhomme joignit son fils et d'un accent convaincu, les larges méplats de ses joues remués par l'émotion. « Ne fais pas cela, Paul. Pour le nom que tu portes, ne fais pas cela, mon enfant, je t'en prie. » Il l'empoignait par l'épaule, secouait d'un geste attendri à la vibration de ses paroles. Mais le jeune homme se dégageait, n'aimant pas ses démonstrations, se défendait de phrases vagues. Mais je ne trouve pas, non, c'est pas mon sentiment. Et devant la fermeture de ce visage au fuyant regard, ce fils qu'il sentait si loin de lui, le père instinctivement élevait la voix, invoquant son droit de chef de famille. Le sourire qu'il surprit entre Paul et sa mère, preuve nouvelle de leur connivence en cette ignominie, acheva de l'exaspérer. Il tonna, délira, menaçant de protester publiquement, d'écrire aux journaux, de les flétrir tous deux, la mère et le fils, dans son histoire. C'était sa menace terrible entre toutes. Quand il disait d'un personnage du passé, « Je l'ai flétri dans mon histoire », nul châtiment ne lui semblait comparable. Pourtant, les deux alliés ne s'en émouvaient guère. Madame Astier, faite à cette menace de flétrissure presque autant qu'au charriement de la malle par les couloirs, se contenta de dire en boutonnant ses gants, « Vous savez qu'on entend tout d'à côté. » Malgré la porte et les tentures, la rumeur d'une causerie se distinguait venue du salon. Alors, comprimant et râlant sa colère, « Écoute, mon bien, écoute-moi bien, Paul, » dit Léon Léonard d'Astier, l'index levé dans la figure du garçon. « Si cette chose dont tu parles s'accomplit, ne compte pas me revoir jamais. Oh, je ne serai pas là le jour de ton mariage. Je ne veux pas de toi. Même à mon lit de mort, tu n'es plus mon fils. Je te chasse, je te maudis. » Paul répondit, très calme, avec une retraite de corps devant le doigt qu'il frôlait. Bon, vous savez, mon cher père, maudire, bénir, ce sont de ces affaires qui ne se font plus dans les maisons. Même au théâtre, on ne maudit plus et on ne bénit plus. « Mais on châtie encore, monsieur le drôle !» gronda le vieux, la main haute. Il y eut un cri furieux de la mère. « Léonard !» Tandis que d'une alerte parade de boxe, Paul détournait le cou, aussi tranquille que dans la salle de Kaiser, et sans lâcher le poignet abattu, murmurait « Ah non, pas ça, jamais !» Le vieil Auvergnat, furieux, essayait de se dégager, mais si courageux qu'il fût encore, il avait trouvé son maître. Et pendant cet horrible instant où le père et le fils se soufflaient leur haine dans la figure, croisaient des regards d'assassins, la porte du salon s'entrebâilla, laissant passer le sourire poupin et bon enfant d'une grosse dame panachée de plumes et de fleurs. Pardon, cher maître, rien qu'un mot. Tiens, Adélaïde est là. Et monsieur Paul aussi, charmant, divin. Mais un tableau de famille. Tableau de famille, en effet, mais de la famille moderne, atteinte de la longue fêlure qui court du haut en bas de la société européenne. L'attaque dans ses principes de hiérarchie, d'autorité. Fêlure plus saisissante ici, à l'Institut, sous la majestueuse coupole, où se juge et se récompense les vertus domestiques et traditionnelles.
Chapitre 16 et dernier. On sait tout faire à la 8e chambre, où l'affaire Albin Fage venait enfin, après une interminable instruction, et tout un jeu de hautes influences pour entraver la procédure. Jamais cette salle de la correctionnelle, dont les murs d'un bleu moisi aux pâles dorures en losange exhalent une odeur de graillon et de misère, n'avait vu se presser sur ces bancs sordides, s'empiler debout au passage une telle cohue élégante et mondaine, tant de chapeaux fleuris, de toilettes printanières à la marque des grands faiseurs, que tranchait violemment le noir mat des toges et des toques. Et du monde arrivait encore par le tambour de l'entrée, dont les deux portes battaient continuellement, sous un flot moutonnant de têtes serrées, dressées, soulevées dans la lumière blanche du palier. Toutes connues, archi-connues, banales à faire pleurer, ces effigies des fêtes parisiennes, enterrement chic ou grande première. Marguerite Auger à l'avant-garde, et la petite comtesse de Frodeur, et la belle Madame Henri de la Légation américaine. Puis les dames congréganistes de l'Académie, Madame Ancelin en mauve au bras du bâtonnier Ravran, Madame Evisa, un buisson de petites roses, entouré d'un essaim noir et bourdonnant de jeunes stagiaires, et derrière le tribunal, aux places réservées, D'Anjou, debout, les bras croisés, dominant l'assistance et les juges, détachant sur la vitre haute son profil aux dures arêtes régulières de vieux cabots qu'on voit partout depuis 40 ans, prototype de la banalité mondaine et de ses uniformes manifestations. À part Astier-Réhu et le baron Huchenard, cités comme témoins, il était le seul académicien ayant osé affronter les plaidoiries, surtout l'avocat d'Albin Fage, ce terrible ricaneur de Margerie dont le coin nasillard fait pouffer, rien qu'à l'entendre, la salle et le tribunal. On allait rire, cela se devinait dans l'air, dans les fonctionnements des toques inclinées, dans l'allumage et le retroussi malin des yeux et des bouches s'adressant de loin de petits signes avertisseurs. Tant de racontars se débitaient sur les prouesses galantes de ce petit bossu que l'on venait d'introduire au banc des prévenus, et qui, levant sa longue tête pommadée, jetait dans la salle, par-dessus la barre, un de ces regards en coup d'épervier auxquels les femmes ne se trompent pas. On parlait de lettres compromettantes, d'un mémoire de l'accusé, citant carrément les noms de deux ou trois grandes mondaines, ces noms toujours les mêmes, trempés et retrempés dans toutes les sales affaires. Un exemplaire en circulait de ce factum sur les bancs des journalistes, une autobiographie naïve et prétentieuse, où la fatuité de l'avorton se doublait de cette vanité spéciale à l'ouvrier qui s'est instruit lui-même, mais en définitive, aucune des révélations annoncées. Fage se contentait d'informer messieurs les juges qu'il était né près de Vassy, Haute-Marne, droit comme tout le monde, c'est la prétention commune aux bossus, et qu'une chute de cheval à 15 ans lui avait défié et renflé le dos. Ainsi qu'à la plupart de ses congénères, dont la formation sexuelle est très lente, le goût de la femme lui était venu tard, mais avec une violence inouïe, alors qu'il travaillait chez un libraire du passage des panoramas. sa difformité le gênant pour ses conquêtes, il chercha un moyen de gagner beaucoup d'argent. Et l'histoire de ses amours, alternée avec celle de ses faux, des procédés employés, encre et parchemin, présentaient des titres de chapitres comme celui-ci, « Ma première victime »,« Angelina brocheuse », »,« Pour un ruban feu », »,« La foire au pain d'épices », »,« J'entre en relation avec Astiréu », »,« L'encre mystérieuse », »,« Défi aux chimistes de l'Institut », etc. Il restait surtout de cette lecture l'effarement que le secrétaire perpétuel de l'Académie française, la science et la littérature officielle, se fussent laissés duper 2 ou 3 ans de suite par cette ignorante cervelle d'infirme bourrée de détritus de bibliothèques, de rognures de livres mal digérés. Là était l'énorme drôlerie de l'affaire et la cause de cette affluence. On venait voir l'Académie sur la sellette en la personne d'Astiréu, que tous les regards cherchaient au premier rang des témoins, immobile, absorbé, répondant à peine et sans tourner la tête aux plates adulations de Fredet, debout derrière lui, ganté de noir, un grand crêpe au chapeau, dans le deuil tout récent de sa sœur. Cité par la défense, le bon candidat craignait que cela lui fît du tort dans l'esprit de son maître, et il s'excusait, expliquait comment il avait rencontré ce misérable fâche Védrine. Mais son chuchotement se perdait dans le bruit de la salle, et le ronron du tribunal appelant, expédiant les causes, le monotone « À-huitaine ! À-huitaine !» tombant comme un éclair de guillotine, coupant court aux réclamations des avocats, à la plainte suppliante de pauvres diables, rouges, s'épongeant le front devant la barre. « Mais monsieur le président, à-huitaine !» Et quelquefois, du front de la salle, un cri en larmes des bras éperdus. « Je suis là, monsieur le président, mais je peux pas arriver, il y a trop de monde. À-huitaine !» Ah! Quand on a vu de ces déblayages et les balances symboliques fonctionner avec cette dextérité, on garde une forte idée de la justice. C'est à peu près la sensation d'une messe de mort expédiée en bousculade par un prêtre étranger à un enterrement de pauvre. Enfin, la voix du président appela « Affaire Albin Fage !» Un grand silence dans la salle et jusqu'à l'extrémité du palier, où des gens montaient sur des bancs pour voir. Puis, après un court marmottage à la barre, les témoins défilèrent entre des rangs serrés de toges pour gagner la salle qui leur est réservée, mornes et nus aux carreaux dérougis, s'éclairant mal sur une étroite ruelle. Astiréu, qui devait être appelé le premier, n'entra pas, marcha dans l'ombre du couloir entre les deux salles. À De Fredet, qui voulait rester avec lui, il déclara sourdement « Non, 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 laissez-moi, je veux qu'on me laisse. » Et le candidat, tout penaud, dut se mêler aux autres témoins, causant par petits groupes. Le baron Huchenard, Boss, le paléographe, le chimiste Delpech de l'Académie des sciences, des experts en écriture, puis 2 ou 3 jolies filles, de celles dont les portraits paraient les murs de la chambre d'Albin Fage, ravis de la réclame qu'allait leur valoir le procès, riant très haut, étalant des bourrifants directoires en contraste avec le bonnet de linge et les mitaines en tricot de la concierge de la Cour des comptes. Védrine citait lui aussi, et Fredet vint s'asseoir à son côté sur le large rebord de la fenêtre ouverte. Pris, emporté dans ces courants contraires qui, à Paris, séparent les existences, les deux camarades ne s'étaient plus revus depuis l'été d'avant qu'aux obsèques récentes de la pauvre Germaine. Et Védrine serrait les mains de son ami, s'informait de sa santé, de son état d'esprit après ce coup terrible. Le candidat haussa les épaules, C'est dur, certainement c'est dur, mais que veux-tu? J'y suis fait. L'autre, arrondissant les yeux en face d'un aussi farouche égoïsme, d'homme pense donc, deux fois en un an qui me retoque. Le coup terrible, le seul pour lui, c'était son échec au fauteuil de Ripaud Babin, qui venait de lui échapper comme celui de l'oisillon. Ah, il comprit ensuite et poussa un profond soupir. Ah oui, Saint-Germain. Ben, elle s'en était donné du mal tout l'hiver pour cette malheureuse candidature. Deux dîners par semaine et jusqu'à minuit, 1 heure du matin, manœuvrant son fauteuil mécanique dans tous les coins du salon. Elle y avait sacrifié ses dernières forces, plus passionnée encore, plus acharnée que son frère. À la fin, tout à la fin, quand elle ne pouvait plus parler, ses pauvres doigts tordus faisaient du pointage sur le bord du drap. Oui, mon cher, elle est morte en pointant, en supputant mes chances à ce damné fauteuil. Oh, mais rien que pour elle, j'en serais de leur académie, et malgré eux, pour la joie de cette chère mémoire. Il s'arrêta court, puis, la voix changée, descendue. Au fait, je ne sais pas pourquoi je te dis ça. La vérité, c'est que depuis qu'ils m'ont enfoncé ce désir sous le front, je ne peux plus penser à rien d'autre. Ma sœur est morte à peine si je l'ai pleurée. Il fallait faire mes valises, solliciter pour l'académie, comme 10 choses. J'en décède, j'en crève, oh, une vraie folie. Dans la brutalité de ses paroles, l'accent fiévreux qui les encolérait, le sculpteur ne retrouvait plus son Fredet, si doux, si poli, épanoui de vivre. L'œil distrait, le pli soucieux du front, la brûlure de sa poignée de main, attestait la passion, l'idée fixe. Pourtant, la rencontre de Védrine semblait l'avoir un peu détendue et tendrement il interrogeait. « Que fais-tu? Que deviens-tu? Ta femme? Tes enfants ?» L'ami répondait avec son tranquille sourire. « Grâce à Dieu, toute la smala était bien. » On allait sevrer la petite, le garçon continuait à remplir sa fonction d'être beau, à guetter avec inquiétude le centenaire du vieux Réhu. Quant à lui, il travaillait. 2 tableaux au salon cette année, pas mal placés, pas mal vendus. En revanche, un créancier aussi imprudent que féroce avait saisi le paladin, qui, d'étape en étape, encombrant d'abord un superbe rez-de-chaussée de la rue de Rome, déménageait ensuite dans une écurie des Batignolles, se morfondait maintenant sous le hangar d'un nourrisseur à Levallois, où de temps en temps on allait le visiter en famille. « Voilà la gloire !» ajoutait Védrine en riant, pendant que la voix de l'huissier réclamait le témoin Astier Réhu. La silhouette du secrétaire perpétuel se découpa une minute sur la lumière poudreuse du tribunal, très droite, très ferme, mais son dos, qu'il ne surveillait pas, ses larges épaules frissonnantes trahissaient une vive émotion. « Pauvre crocodilus !» murmura le sculpteur. « Il passe par de rudes épreuves. Cette histoire d'autographe, le mariage de son fils... » « Hop, l'astier est marié ? Oui, depuis 3 jours avec la duchesse. Une espèce de mariage morganatique, sans autre assistance que la maman du jeune homme et les 4 témoins. J'en étais comme tu penses, puisqu'une fatalité singulière m'associe à tous les faits et gestes de cette famille astier. » Et Védrine disait son saisissement en voyant paraître dans cette salle de maillerie la duchesse Padovani, pâle comme une morte, encore fière, mais navrée, désenchantée, sous une toison de cheveux gris, ses pauvres cheveux qu'elle ne prenait plus la peine de teindre. À côté d'elle, Paul Astier, monsieur le comte, souriant et froid, toujours joli. On se regarde, personne ne trouve un mot, excepté l'employé qui, après avoir dévisagé les 2 vieilles dames, éprouve le besoin de dire en s'inclinant la mine gracieuse Mais nous n'attendons plus que la mariée. Mais elle est là, la mariée, répond la duchesse, s'avançant la tête haute. Et de la mairie, où l'adjoint de service a le bon goût de leur épargner tout discours, on file à l'Institut catholique, rue de Vaugirard, une église aristocratique, toute dorée, fleurie, un flamboiement de lustre, et personne. Rien que la noce sur un seul rang de chaises, écoutant Monseigneur Adriani, le nonce du pape, baragouiner une interminable homélie qu'il lisait, tout imprimé dans un cartulaire à enluminure. Et c'était beau, ce prélat mondain, son grand nez, sa lèvre mince, les épaules étriquées sous sa pèlerine violette, parlant des traditions d'honneur de l'époux, des grâces juvéniles de l'épouse, avec un regard de côté, farceur et noir, qui tombait sur les prix durs en velours du triste couple. Puis la sortie, de froids saluts échangés entre les arcades du petit cloître, et le soupir soulagé de la duchesse, son « Oh, c'est fini, mon Dieu !» avec l'intonation désespérée de la femme qui a mesuré le gouffre et s'y jette les yeux ouverts pour tenir un engagement d'honneur. « Oh, du sombre, du lamentable !» continuait Védrine. « J'en ai vu dans mon existence, mais rien de plus navrant que ce mariage de Paul Astier. » « Mais fier gredin tout de même, notre jeune ami, » dit Frédéric entre ses dents. « Oui, un de nos jolis strike for Philifer. » Le sculpteur répéta le mot en l'accentuant « Stregal for Lifer », désignant ainsi cette race nouvelle de petits féroces à qui la bonne invention darwinienne de la lutte pour la vie sert d'excuse scientifique en toutes sortes de vilainies. Frédéric reprit « Enfin, toujours le voilà riche, ce qu'il voulait. Son nez ne l'a pas fait dévier cette fois. Oh, attendons, il faudra voir. La duchesse n'est pas commode. Il lui avait un sacré mauvais œil à la mairie. Si sa vieille dame l'ennuie trop, nous pourrions bien le retrouver en cour d'assises, ce fils et petit-fils d'immortels. Témoin Védrine !» appela l'huissier à toute voix. En même temps, l'énorme éclat de rire d'une foule pressée et communicative s'échappait du battement de la porte. « Christy, on s'en met pas là-dedans !» dit le garde de Paris, de planton dans le couloir. La salle des témoins, vidée peu à peu pendant la causerie des deux copains, ne renfermait plus que Frédéric et la concierge de la Cour des comptes. Effaré de paraître en justice et tortillant les brides de son bonnet d'un mouvement maniaque. Pour le candidat, au contraire, l'occasion était unique d'encenser publiquement l'Académie française et son secrétaire perpétuel dans un petit speech très reproduit par les feuilles et comme le prologue de son discours de réception. Seul, maintenant que la bonne femme passait à son tour, il arpentait la pièce, stationnait devant la fenêtre, arrondissait les périodes et de beaux gestes gantés de noir. Et voici que de la maison en face, on s'y méprenait, une lugubre masure dartreuse et sombre suant les immondes et honteux métiers qu'elle abritait. Une main grasse, aux bras nus, écartait un rideau rose, esquissait une invitation équivoque. « Oh, ce Paris !» Le front du récipiendaire s'en couvrit d'une rougeur de honte. Il s'éloigna vivement de la croisée et se réfugia dans le couloir. « C'est le ministère qui parle à 7 heures !» lui chuchota le planton, pendant qu'une voix faussement indignée clamait dans l'atmosphère surchauffée de la salle. « Vous avez abusé de l'innocente passion d'un vieillard !» Frédéric pensa tout à coup. Ben, « Eh bien, et moi ?» « Faut croire qu'ils vous ont oublié. »« Toujours donc !» se dit tristement le pauvre diable. Une formidable explosion de fou rire accueillit à cette minute le déballage de la fausse collection Ménilcase. Lettres de roi, de pape, d'impératrice, Turenne, Buffon, Montaigne, La Boétie, Clémence, Isaure, et à chaque nouveau nom de cette énumération fantastique, montrant l'énorme candeur de l'historien officiel, tout l'institut, berné par ce petit gnome, la joie de la foule redoublait. Offredet ne put entendre davantage ce rire irrespectueux qui bafouait son protecteur et son maître Astyrée, d'autant qu'il se sentait frappé lui-même en retour, sa candidature encore une fois compromise. Il s'échappa, descendit, erra longtemps dans les cours, puis sur le trottoir, devant la grille, se confondit enfin au remous de la sortie générale, parmi les galopades de la livrée, le tumulte des voitures, dans la belle lumière finissante d'une journée de juin où les ombrelles roses, blanches, mauves ou vertes tendaient en s'ouvrant des colorations de grands fleuves. Des fusées de gaieté partaient encore de tous les groupes, comme à la sortie d'une pièce très farce. Salé, le petit bossu, 5 ans de prison et les dépens. Est-ce que l'avocat était drôle ? Marguerite Auger s'esclaffait, son rire du deux dans Musidora. « Oh, mes enfants !» Et d'Anjou, conduisant Madame Ancelin à sa voiture, disait tout haut cyniquement « Mais c'est un crachat dans la figure de l'Académie, en plein, mais si bien envoyé !» Léonard Astier, qui s'éloignait seul, sans tourner la tête, entendait ses propos et d'autres encore, malgré les avertissements de l'un à l'autre. « Prenez garde, il est là !» Et c'était le commencement pour lui de la déconsidération, son ridicule connu, raillé de Paris tout entier. « Donnez-moi le bras, mon bon maître !» Fredel avait rejoint, cédant à un irrésistible élan du cœur. « Oh, mon ami, quel bien vous me faites !» dit le vieillard d'une voix sourde et mouillée. Ils marchèrent quelque temps en silence. La verdure des quais ombrait et parait les pierres. Les bruits de la rue et de l'eau sonnaient dans l'air joyeux. Un de ces jours où il semble que la misère humaine fait trêve. « Nous allons ?» demanda Fredet. « Oh, vous voudrez, mais pas chez moi !» dit le bonhomme, à qui cette idée de la scène que sa femme allait lui faire causait une terreur d'enfant. Ils dînèrent tous deux au point du jour, après avoir marché longtemps le long de l'eau. Et les bonnes paroles du disciple aidant la douceur de la soirée, Astyrée rentrait chez lui fort tard, apaisé, remis de ses 5 heures de pilori sur le banc de la 8e chambre, 5 heures à subir, les mains liées, le rire outrageant de cette foule et le jet de vitriol de l'avocat. « Riez, riez, messieurs les babouins, la postérité jugera !» Il se consolait ainsi en traversant les grandes cours de l'Institut, où tout dormait, les vitres éteintes, la baie des escaliers faisant à droite et à gauche de grands trous noirs rectangulaires. Monté à tâtons, il gagna son cabinet sans bruit, sans lumière, comme un voleur. C'est là que, depuis le mariage de Paul et sa rupture avec son fils, il se jetait tous les soirs sur un lit improvisé pour échapper à ces tenaces discussions nocturnes où la femme reste puissante, même quand elle a cessé d'être femme, par l'infatigable ressort de ses nerfs et où l'homme finit par tout céder, tout promettre, pour la paix, la liberté du sommeil. Dormir. Oh, jamais il n'en avait senti le besoin comme à la fin de cette longue journée d'émotion et de fatigue. Et il entrait dans l'ombre de son cabinet, déjà comme dans du repos, quand il distingua une vague forme humaine à l'angle de la fenêtre.
« Eh bien, vous voilà content !»
Sa femme. Sa femme qui le guettait, qui l'attendait, dont le petit sifflement le tint immobile au milieu du noir à écouter.
« Vous l'avez eu, votre procès ? Vous vouliez du ridicule, vous vous en êtes couvert.
Il en est des pieds à la tête à ne plus oser vous montrer. Ah, c'était bien la peine de crier que votre fils déshonorait le nom d'Astier. Mais ce nom, grâce à vous, le voilà devenu synonyme d'ignorance et de jobardise. On ne peut plus le prononcer sans rire. Tout seul, je vous demande, pour sauver votre œuvre historique, Jeannot, mais qui la connaît, votre œuvre historique? Qui cela intéresse-t-il que vos documents soient faux ou vrais? Vous savez bien qu'on ne vous lit pas.
Elle allait, distillant son aigre filet de voix au diapason le plus haut. Et pour lui, c'était le pilori qui continuait, l'insulte officielle qu'il écoutait comme tantôt, comme au tribunal, sans une interruption, sans un mouvement de menace, avec le sentiment d'une autorité hors d'atteinte et de toute réplique. Mais qu'elle était cruelle, cette bouche invisible qui le mordait, le blessait partout, et fouillait à petits coups de dents son honneur d'homme et d'écrivain. Joli, ses livres. Mais s'imaginait-il, par hasard, qu'il lui avait valu l'Académie? Mais c'est à elle seule qu'il le devait, son habit vert. Une vie d'intrigue, de manège, pour forcer les portes, l'une après l'autre. Toute sa jeunesse de femme, sacrifiée aux déclarations chevrotantes, aux entreprises de vieux, qui la soulevaient de dégoût. Non, mon cher, il fallait bien. On entre à l'Académie avec du talent, vous n'en avez pas. Ou un grand nom, ou une haute situation. Mais tout vous manquait. Alors je m'en suis mêlé. Et de peur qu'il en doutât, qu'il pût voir dans ses paroles l'exaspération d'une femme blessée, humiliée dans sa vanité d'épouse, dans sa tendresse aveugle de mère, elle précisait les détails de son élection, lui rappelait son fameux mot sur les violettes de Madame Astier, qui sentait le tabac, malgré qu'il ne fumât jamais. Un mot, mon cher, qui vous a rendu plus célèbre que tous vos livres. Il eut une plainte basse et profonde, le cri sourd d'un homme éventré qui retient ses entrailles à deux mains. Et la petite voix aiguë continuait sans s'émouvoir. Et faites-la donc, mon Dieu, votre mal, une bonne fois, qu'on n'entende plus parler de vous. Notre Paul est riche, heureusement, il vous enverra de quoi manger, car vous pensez bien que maintenant, vous ne trouverez ni un éditeur ni une revue qui veuille de vos inepties, et c'est le prétendu déshonneur de votre fils qui vous empêchera de mourir de faim. « Oh, c'en est trop !» murmura le pauvre homme, s'en allant, fuyant cette fureur sanglante. Et tâtant les murs, enfilant les couloirs, les escaliers et les cours sonores, il répétait, pleurant presque, « Oh, c'en est trop ! Oh, c'en est trop !» Où va-t-il ? Droit devant lui, comme en rêve. Il franchit la place et la moitié du pont dont la fraîcheur le ranime. Il s'assied sur un banc, relève son chapeau et ses manches pour calmer ses artères battantes. Peu à peu, le bruissement régulier de l'eau le calme. Il se reprend, mais c'est pour se rappeler et souffrir. Quelle femme, quel monstre! Et il a pu vivre 35 ans à côté d'elle sans la connaître. Un frisson d'horreur le secoue au souvenir de tant d'abominations qu'il vient d'entendre. Elle n'a rien épargné, rien laissé de vivant en lui, pas même cet orgueil qui le tenait encore debout, sa foi dans son œuvre, sa croyance à l'Académie. Et songeant à l'Académie, instinctivement, il se retourne. Au bout du pont désert, élargi en une immense avenue jusqu'au pied du monument, le palais Mazarin, massé, resserré dans la nuit, dresse son portique et sa coupole, comme sur la couverture des Didots, tant regardé en sa jeunesse. Oh, ce dôme, ces pierres, but décevant, cause de son malheur. C'est là qu'il est venu chercher sa femme, sans amour, sans joie, pour la promesse de l'Institut. Il a eu, oui, cette place enviée. Il sait comment, mais c'est du propre. Des pas, des rires sonnent sur le pont, se rapprochent. Des étudiants revenant au quartier avec leur maîtresse. Il a peur d'être reconnu, se lève, s'appuie à la rampe, et pendant que la bande le frôle sans le voir, il songe amèrement qu'il ne s'est jamais amusé, lui, jamais donné un beau soir comme celui-là, pour chanter follement sous les étoiles. L'ambition toujours tendue, en marche vers cette coupole de temple, qui lui a fourni en retour quoi ? Rien, le néant. Déjà, il y a bien longtemps, le jour de sa réception, les discours finis, les malices échangées, il a eu cette impression de vide et d'espoir mystifié. Dans le fiacre qui le ramenait chez lui pour quitter la Bivère, il se disait « Comment j'y suis ? Et ce n'est que ça ?» Depuis, à force de se mentir, de répéter avec ses collègues que c'était bon, exquis, les délices des délices, ben il a fini par y croire. Mais à présent, le voile est tombé. Il y voit clair et voudrait crier par 100 voix à la jeunesse française. « C'est pas vrai, on vous trompe. L'Académie a l'heure, un mirage. Faites votre route et votre œuvre en dehors d'elle. Surtout ne lui sacrifiez rien, car elle n'a rien à vous donner de ce que vous n'apporterez pas. » Ni le talent, ni la gloire, ni le suprême contentement de soi. Ce n'est ni un recours, ni un asile, l'Académie. Idole creuse, religion qui ne console pas. Les grandes misères de la vie vous assaillent là comme ailleurs. On s'y est tué sous cette coupole, on y est devenu fou. Et ceux qui, dans leur détresse, se sont tournés vers elle, qui lui ont tendu les bras, découragés, d'aimer ou de maudire, n'y ont étreint qu'une ombre, et le vide, le vide. » Il parle tout haut, tête nue, tenant le parapet à deux mains, le vieux professeur, comme autrefois son cours au rebord de sa chair. En bas, le fleuve roule, nuancé de nuit, entre ses fils de réverbères qui clignotent avec cette vie silencieuse de la lumière, inquiétante comme tout ce qui se meut, regarde et ne s'exprime pas. Sur la berge, un chant d'ivrogne festonne en s'éloignant. « Quand Cupidon le matin se réveille !» Quelque auvergnat en goguette, regagnant son bateau à charbon. Ah, cela lui rappelle des cèdres, le frotteur, et son verre de vin frais. Il le voit, essuyant sa bouche d'un revers de manche. « Il n'y a que ça de beau dans la vie !» Même cette humble joie de nature, lui, ne l'a pas connue. Il est obligé de l'envier. Et se sentant seul, sans recours, sans une épaule pour pleurer, il comprend que cette gueuse là-haut avait raison et qu'il faut la faire une bonne fois, sa malle. Des sergents de ville trouvèrent au matin, sur un banc du pont des Arts, un chapeau à large bord, un de ces chapeaux qui gardent un peu de la physionomie de leur propriétaire. Dedans, une grosse montre en or, une carte de visite au nom de Léonard Astier-Réhu, secrétaire perpétuel de l'Académie française, sabré en travers de cette ligne au crayon, « Je meurs ici volontairement. » »« Oh oui, bien volontairement. » Et mieux encore que sa petite phrase d'une longue et ferme écriture, l'expression de ses traits, les dents serrées, la mâchoire avançante et violente, disait sa ferme résolution de mourir. Quand, après une matinée de recherche, les mariniers le retirèrent des larges maillons d'un filet de fer entourant des bains de femmes. Tout près du pont. Il fut porté d'abord au poste de secours où le secrétariat de l'Institut vint le reconnaître. Ce n'était pas le premier perpétuel qu'on tirait de la Seine. Même chose s'était déjà produite du temps de Picheral, le père, presque dans les mêmes circonstances. Aussi Picheral, le fils, n'en semblait pas très ému, curieux seulement à voir frétiller sur la large berge en habit, le crâne nu et luisant comme un jeton. L'horloge du palais Mazarin sonnait une heure quand le brancard du poste, au pas lourd des porteurs, entra sous la voûte, marquant son chemin de sinistre mouillure. Au bas de l'escalier B, on reprit haleine. Un grand carré de ciel bleu se découpait au-dessus de la cour aveuglante de soleil. La toile du brancard, un instant soulevée, les traits de Léonard Astiéréu se montrèrent une dernière fois à ses collègues de la commission du dictionnaire qui venaient de lever la séance en signe de deuil. Il se tenait autour, la tête découverte, moins triste encore que saisi et scandalisé. Des curieux s'arrêtaient aussi, des ouvriers, petits employés, apprentis, car l'Institut sert de passage entre la rue Mazarine et le quai. Parmi eux, le candidat Fredet, qui, tout en s'essuyant les yeux, pleurant son maître, son bon maître, songeait au fond de lui, et non sans quelque honte, qu'un nouveau fauteuil était vacant. Juste à ce moment, le vieux Jean Réhu descendait pour sa promenade de digestion. Il ne savait rien. Parut étonné devant cette foule qu'il dominait des dernières marches de l'escalier et s'approcha pour voir, malgré ce qui l'éloignait d'un geste effaré. Comprit-il, reconnut-il? Ses traits restaient immobiles, ses yeux aussi inexpressifs que ceux de la Minerve là-bas sous son casque de bronze. Puis, ayant bien regardé, pendant qu'on rabattait la toile à raies sur le pauvre visage du mort, il s'en alla, droit, fier, son ombre immense à côté de lui, véritable immortel, celui-là, et son hochement de tête semblait dire: « Ben, j'ai encore vu ça, moi !»